Le ministre Jolin Barrette a entrepris de défendre son projet de loi qui floche notamment 18 000 dossiers d'immigrants. Enfin, peut-être un peu moins, mais des milliers de dossiers d'immigrants sous prétexte qu'on va tout reprendre à zéro puis refaire les choses comme du monde. Et il est en train de faire un grand tour des médias. Il commence par chez nous, il va aller à Tout le monde en parle aussi après ça. Bonjour, M. Jolin Barrette.
Bonjour, Mme Segal. Bonjour, M. Lavoie.
Monsieur oui, Jolin Barrette, j'écoutais quelqu'un qui est sur la liste et qui travaille au Québec actuellement, qui espère obtenir ses homologations pour son dossier de médecin. Fait un an et demi qu'elle va à boîte à mal en espérant avoir une réponse. Et elle a investi non seulement de l'argent, mais beaucoup de temps et d'espoir dans la construction de sa vie. Puis là, vous, vous prenez ça puis vous mettez ça aux poubelles. Je suis pas capable de vous le pardonner.
Ben écoutez, dans un premier temps, il y a lieu de rectifier certains éléments. Pour les gens qui sont sur le territoire québécois, là, ils sont avec un permis fédéral de travail. Dans un premier temps, c'est ce qu'il faut dire. Le projet de loi que j'ai déposé change absolument rien à leur statut temporaire sur le territoire québécois. Et ceux qui sont en emploi au Québec et qui parlent français, il y a une voie rapide qu'ils peuvent utiliser, et je les ai informés à ce niveau-là, d'utiliser le programme d'expérience québécoise. En 20 jours, on peut leur délivrer le certificat de sélection du Québec. Les critères, c'est être en emploi et parler français. Si jamais ils répondent pas à une de ces deux conditions-là, moi j'ai dit, on les invite à déclarer leur intérêt dans le nouveau système, le système ARIMA, et par la suite, je vais inviter en priorité les gens qui sont sur le territoire québécois à ce qu'ils puissent déposer leur invitation et à ce qu'on puisse éventuellement les sélectionner. Alors voyez-vous, pour tous les cas des gens qui sont sur le territoire québécois, le projet de loi ne change rien.
Ce qu'on veut
faire avec le projet de loi, c'est arrimer les besoins du marché du travail avec le profil des candidats.
Pour cette femme-là,
mais pourquoi fallait-il... Oui, vas-y, Myriam, vas-y. Alors, pourquoi fallait-il les éliminer du décor alors que votre système ARIMA, qui en fait est entré en ligne en août 2018, n'est pas fonctionnel en termes de sélection des immigrants encore?
Ben oui, le système ARIMA fonctionne. Donc, les gens peuvent déclarer leur intérêt à venir au Québec. D'ailleurs, j'invite à toutes les personnes qui sont en situation temporaire au Québec et qui répondent pas au PEC à déposer leur demande de déclaration d'intérêt dans le système ARIMA. Même chose pour les gens à l'étranger. On a envoyé une information à ces gens-là qui avaient déposé leur dossier de dire, si vous êtes toujours intéressé à venir au Québec, déposez votre déclaration de candidature. Parce que, il faut le dire, là, ça fait des années que les gens attendent. Et le taux de refus dans l'ancien système était extrêmement important. On parle de l'ordre de plus de 50%. Alors, ce système-là ne fonctionnait pas. Et surtout, il n'était pas basé sur les besoins de main-d'œuvre du marché du travail québécois. Ça signifie, là, qu'il y a des gens qui arrivaient au Québec, ils pensaient pouvoir travailler dans leur domaine de compétences, dans leur domaine de formation, puis ils se retrouvent encore une fois surqualifié à pas occuper les emplois qu'il aurait dû occuper. Puis, dans le fond, ça, c'est pas une approche respectueuse.
Mais vous retardez l'obtention de la citoyenneté. Cette femme-là que j'ai entendue un matin, là, elle attend son certificat de sélection. Ça retarde d'un an, ça retarde d'autant toutes sortes de démarches qu'elle doit faire. Il y a quelque chose de cruel. Moi, je suis passée deux fois par l'immigration parce que j'ai importé deux enfants, si vous voulez. Et la quantité de démarches, de paperasse, d'attente, tous les jours, tu vas à ta boîte à lettres en disant peut-être qu'enfin ils sont déniaisés puis me l'ont envoyé. Tout ça, là, ça se rembourse pas par 1 000 $. Recommencez à zéro, vous autres. Il y a quelque chose de cruel dans ce que vous faites, Monsieur Jolin Barrette.
Non, je suis d'accord avec vous, Mme Segal, que les délais sont inacceptables, puis ils ont été inacceptables au cours des dernières années. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Vous venez de les allonger?
Non, je viens raccourcir les délais parce que désormais, à l'intérieur de 6 mois, les gens vont pouvoir avoir une réponse plutôt qu'attendre des années et des années. Le délai moyen, là, c'était 36 mois, c'était 3 ans. Moi, je ramène ça à l'intérieur de 6 mois. Donc, pour la dame que vous parlez, dont j'ai pas eu la connaissance personnelle du dossier...
Ça fait un an qu'elle attend. Et normalement, la réponse devait lui arriver incessamment. Puis là, maintenant, vous lui rajoutez un 6 mois.
Non, Mme Segal, je ne peux pas présumer du délai que ça allait prendre. Il n'y a aucune garantie qu'elle allait avoir l'information dans les prochains jours. Ça, c'est important de le dire.
Les fonctionnaires lui disaient 10 mois, ça faisait un an. Donc, elle était à veille d'avoir une réponse.
Ça, ce sont des situations, des cas particuliers, puis il faut les analyser un par un. Mais pour le cas d'une dame comme ça, elle pourrait avoir son certificat de sélection à l'intérieur de 20 jours ouvrables si elle parle français et elle est en emploi au Québec. Alors moi, ce que je fais et ce que je dis aux gens qui sont sur le territoire québécois, en statut temporaire. Le projet de loi ne change rien à votre situation. Par contre, je vous invite à déclarer votre intérêt le plus rapidement possible ou à appliquer dans le PEC, parce qu'il faut dire, Mme Segal aussi, c'est qu'il y a des gens, là, quand ils sont arrivés au Québec, supposons avec un permis de travail temporaire, ils ont tout de suite appliqué dans le programme régulier de travailleurs qualifiés, qui est le long programme, alors qu'ils pourraient se qualifier dans le programme de l'expérience québécoise, et donc ils ont été mal alignés. Et ça, c'est une responsabilité du ministère de l'Immigration de faire en sorte que maintenant, on va mieux coordonner l'action des différents ministères. Puis les pouvoirs que je donne au ministère de l'Immigration dans le projet de loi 9, là, c'est notamment le fait d'avoir un parcours personnalisé. Maintenant, je vais pouvoir déployer des ressources pour mieux franciser, mieux intégrer et mieux accompagner les immigrants à travers tout le processus, et ça, dès le pays d'origine d'où ils viennent. Donc maintenant, le ministère de l'Immigration là, va travailler en amont pour s'assurer de faire reconnaître les diplômes des gens, pour s'assurer qu'il y a un emploi à leur arrivée au Québec, puis pour faire le lien entre les employeurs puis les candidats à l'immigration. Nous, c'est notre approche. Là, on a entendu le milieu économique, on a entendu aussi les immigrants qui ont passé à travers le processus, que ça durait parfois 5 ans. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Les gens ont mis leur vie sur pause pendant toutes ces années-là. Il faut que ça change, puis ça prend une réforme du système d'immigration, puis c'est ça que je mets en place.
Monsieur Genet-Barrette, tout à l'heure, on en parlait plus tôt dans l'émission, il semble avoir une volonté claire du gouvernement actuel de déclencher des chicanes avec Ottawa. Vous faites votre projet de loi sur l'immigration, mettant en place un certain nombre de principes et de concepts, puis vous savez qu'il y en a un que ça ne marchera pas. Puis vous le mettez là quand même, comme si le but, c'est de se faire dire non pour créer une atmosphère.
Pas du tout, M. Lavoie. Et d'ailleurs, je pense qu'à l'époque, vous étiez à Ottawa, dans le cabinet de M. Mulroney, à l'époque où l'entente Canada-Québec a été négociée. Et le pouvoir que je réintroduis dans le projet de loi 9, c'est un pouvoir qui était présent dans les lois québécoises entre 1993 et 2016. Et ma prédécesseure, Mme Kathleen Veld, alors qu'elle a modifié, elle a adopté une nouvelle loi sur l'immigration, elle a supprimé ce pouvoir-là, elle a abdiqué le pouvoir qui avait été négocié avec le fédéral. Parce que dans la loi actuelle fédérale, là, il y a encore ce pouvoir-là qui permet aux provinces de mettre des conditions grévant la résidence permanente. Et il suffit simplement que le fédéral adopte une réglementation miroir à celle du Québec et on va pouvoir ravoir ce pouvoir-là.
Ils ont dit non.
Qui est un pouvoir charmant acquis au Québec.
Ils ont dit non.
Ben, j'ai entendu M. Leblanc dire qu'il allait y penser aussi par la suite. La première réaction, ça a été un non, mais après réflexion, ils ont reconsidéré leur décision, puis je les invite à reconsidérer leur décision parce que pour la nation québécoise, là, la sélection de l'immigration économique, c'est extrêmement important et c'est le prolongement de nos compétences. Puis il y a un autre point aussi qu'il faut dire, M. Lavoie. Le marché du travail au Québec, là, c'est pas la même chose que dans tout le reste du Canada. Puis présentement, on est en négociation avec le gouvernement fédéral pour avoir des assouplissements au niveau des travailleurs temporaires. Parce que les entreprises des différentes régions du Québec, ils disent les règles fédérales sont trop complexes, c'est beaucoup trop long avant de pouvoir aller chercher des travailleurs, ça prend plus de flexibilité. Puis j'invite mes homologues fédéraux à comprendre le message des employeurs des différentes régions du Québec, ça prend de la flexibilité,
oui,
de
monsieur,
la compétition avec le reste du monde, M. Lavoie.
M. Jolin-Barrette, je vous soumets qu'une PME en Nouvelle-Écosse, une PME en Colombie-Britannique, puis une PME au Québec, ça se ressemble drôlement, hein?
Oui, ça se ressemble, mais par contre, lorsqu'il y a un dédoublement au niveau de l'étude d'impact du marché du travail qui est commandé par le gouvernement fédéral, qu'il y a également des seuils maximaux à respecter relativement aux travailleurs, on veut un assouplissement au niveau du programme des travailleurs temporaires pour faire en sorte de s'assurer que ces gens-là, ils viennent au Québec, ils ont un emploi, puis par la suite, ils puissent demeurer sur le territoire québécois en les permanentisant, en s'assurant qu'ils puissent apprendre le français, puis qu'ils puissent rester dans leur région pour la ils ont choisi un employeur
mais,
pour laquelle
vous,
ils travaillent
mais
et ils s'investissent dans leur communauté.
Là-dessus, là,
vous saviez sûrement que c'est contraire à la Charte des droits et libertés. Vous deviez le savoir. Vous avez des avis juridiques.
Je ne peux pas obliger qui que ce soit, lorsqu'il a sa résidence permanente, à rester dans un endroit sur le territoire québécois ou canadien. Effectivement, ça, c'est pas une surprise. Par contre, la disposition que je réintroduis dans le projet de loi, ce n'est pas ça qu'elle dit. Elle dit que pour les projets d'affaires, exemple, vous avez un immigrant entrepreneur qui souhaite venir s'établir au Québec, on peut poser des conditions pour que son entreprise soit établie, supposons, en Abitibi. Alors ça, c'est une des conditions qui peut grever sa résidence permanente et la réglementation, elle était en vigueur jusqu'en 2016 pour cet élément-là. Mais pour un travailleur qualifié, une personne qui vient travailler dans un métier, supposons, effectivement, on ne peut pas l'obliger à aller en région. Par contre, moi, ce que je peux faire avec le nouveau système, c'est lui dire à ce candidat à l'immigration-là, écoutez, vous avez un employeur qui vous offre un emploi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben on va vous sélectionner en priorité, puis la personne aura son emploi directement en région. Et on souhaite que l'employeur et le milieu d'accueil puissent bien l'accompagner pour le conserver dans la région. Mais c'est sûr que moi, je peux pas obliger personne à demeurer sur le territoire québécois avec la résidence permanente.
Et si ça va pas bien avec son employeur, il est obligé d'y rester pareil?
Non, ben là, moi, je vous parle de la situation des de l'immigration permanente. Ouais. Vous faites référence actuellement au permis de travail fédéral. Donc, les permis de travail fédéral, ce sont des permis qui sont fermés. Et là, vous avez raison de dire qu'ils sont attachés avec un employeur précisément, mais ce sont les règles fédérales qui s'appliquent.
Oui, mais attendez un peu, là. C'est parce que je reçois un courriel de quelqu'un qui me dit, pour ceux qui ont des permis de travail fermés, t'es obligé à faire des renouvellements et à travailler toujours pour le même employeur. Ça pousse beaucoup d'employeurs à les exploiter.
Ben, je suis d'accord avec vous, puis c'est pour ça, Mme Segal, que mon collègue Jean Boulay, le ministre du Travail et de l'Emploi, est en train de travailler sur une réglementation pour les travailleurs en situation de vulnérabilité. Il faut le dire, la très grande majorité des employeurs au Québec agissent en tout respect des lois. Il y a toujours des contrevenants, puis il faut lutter et pénaliser ces contrevenants-là. Mais une chose qui est certaine, c'est que pour nous, au Québec, la façon de s'assurer qu'il y ait une régionalisation, c'est notamment par les travailleurs temporaires dans les différentes régions. Puis là, la responsabilité du ministère de l'Immigration entre en compte pour s'assurer de dire, écoutez, on vous accueille en région, on déploie, comment je pourrais dire, la grande séduction pour que vous ayez, vous tombez en amour avec la région pour demeurer, pour fonder votre famille en région et pour passer vers le processus permanent d'immigration pour demeurer au Québec pour le reste de votre vie parce que vous parlez français, vous êtes en emploi puis vous adhérez aux valeurs québécoises.
Vous allez dépenser 19 millions de dollars pour ne pas traiter des dossiers. J'ai calculé qu'à 1000 piastres du dossier, ça fait 30 heures. Vous êtes sûr que vous n'étiez pas capable de trouver un fonctionnaire qui en 30 heures était capable de donner une réponse pour chacun de ces dossiers-là? Parce que je trouve ça énorme. Pour pas traiter des dossiers, je trouve ça épouvantable.
Non, Mme Segal, le 19 millions, c'est un remboursement. Donc, c'est pas une dépense, c'est l'argent des gens qui ont appliqué sur le programme, on leur rembourse le tarif.
Et ce qu'il faut comprendre, on appelle ça du sophisme. Monsieur Julien Barrette, le mot, c'est du sophisme.
Ben écoutez, c'est la réalité, c'est des gens qui ont déboursé et on leur rembourse leur argent. Donc, factuellement, c'est le...
C'est de l'argent que vous avez puis que vous allez leur donner au lieu de dépenser cet argent-là pour leur donner des réponses et respecter les êtres humains qu'ils sont.
La réalité pour les candidats à l'étranger, c'est que notamment le taux de refus est de 50% et beaucoup de gens qui on a sélectionné en fonction de l'ancienne grille de sélection ne répondaient pas au marché du travail. Ça veut dire que quand ils arrivaient au Québec et au Canada, ben, il n'y avait pas d'emploi disponible pour eux dans leur domaine de formation. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez souvent avec des cas où des gens où leurs compétences professionnelles ne sont pas reconnues, où ils ne peuvent pas exercer un métier qui correspond à leur formation. Puis ça, ça amène des rêves brisés. Puis les entreprises, puis les différentes régions du Québec nous disent tous la même chose. Il faut avoir une adéquation, puis il faut s'assurer aussi d'agir de façon respectueuse.
À 19 millions de dollars, vous étiez capable de les examiner, ces 18 000 dossiers-là?
La problématique, Mme Segal, c'est au niveau de l'inventaire des dossiers. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où les gens répondent pas au marché du travail nécessairement. Donc, il faut s'assurer d'avoir un lien et tous les gens qui étaient sur le territoire québécois, on va les inviter en priorité à déposer leur demande et à évaluer leur dossier. C'est ce qu'on a toujours dit qu'on allait faire pour s'assurer que les gens qui sont sur le territoire québécois ils vont pouvoir y demeurer et permanentiser leur situation.
Alors moi, il y a de plus en plus de gens qui regardent votre projet de loi. D'abord, ils trouvent tout le monde et il y a une sorte de consensus. Ça a l'air pas mal improvisé, cette affaire-là. Mais qui se disent, sais-tu, je pense qu'ils ont trouvé la méthode pour réduire de 10 000 comme ils l'avaient promis, chose pour laquelle ils n'avaient pas la juridiction. Ils vont réussir à les couper de 10 000 en bloquant le système comme vous êtes en train de
en
faire.
En écœurant les gens.
Non, pas du tout. Écoutez, premièrement, M. Lavoie, on a la juridiction sur le plan annuel en matière d'immigration. À chaque année, on dépose un plan annuel et à chaque 3 ans, on dépose une planification pluriannuelle.
Partiellement.
C'est l'Assemblée nationale qui fixe le seuil que nous avons. On est en négociation avec le gouvernement fédéral relativement aux catégories de regroupement familial et de réfugiés. Le Québec a une juridiction aussi sur les réfugiés quant à la sélection des réfugiés en fonction des différentes régions du monde. Ça, c'est important de le dire. Et le Québec a toujours respecté ses obligations internationales. Cela étant dit, je pense que c'est à l'Assemblée nationale de déterminer les niveaux, mais le projet de loi numéro 9 n'a aucun lien avec les niveaux d'immigration. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on met fin à l'inventaire en remboursant les gens, parce que ces personnes-là, qui sont à l'étranger durant des années, ils ont attendu, puis ils vont se retrouver dans une situation où parfois leur dossier est refusé. Et en plus, lorsqu'ils arrivent au Québec, c'est pas fondé sur le besoin de main-d'œuvre. Durant 15 ans, là, les libéraux ont laissé accumuler un inventaire de dossiers. On
Vous entendez-vous, M. Jolin-Barrette, parler d'inventaire comme il s'agissait, ben oui, comme s'il s'agissait plein, de marchandises? Vous entendez-vous parler d'inventaire? Il s'agit de 18 000 personnes qui rêvent de venir faire leur vie ici. C'est pas un inventaire, ça?
Oui, il me semble. Votre exemple que vous aviez utilisé, c'est le Tinder, comprends-tu, de l'emploi. Je me demande des fois s'il y a du respect, une absence de respect. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec tout ça?
Monsieur Lavoie et Mme Segal, ce qui est irrespectueux, c'est de laisser les gens dans leur pays d'origine pendant 5 ans, le temps qu'ils mettent leur vie sur pause, et ensuite recevoir une réponse de refus du gouvernement du Québec. Ce que l'on fait avec le projet de loi, c'est qu'on dit aux gens, déclarez votre intérêt à venir au Québec. Parce que parmi les 18 000 dossiers, là, il y a des gens aussi que soit ils ont décidé d'aller dans un autre pays d'origine, soit qu'ils sont plus intéressés à venir au Québec, ou soit qu'ils ont laissé tomber leur demande aussi. Ça aussi, il faut le dire, parce que les délais étaient tellement longs sous le régime libéral, on modernise le système. Puis on s'assure aussi de bien faire les choses en disant aux gens, voici la réalité du marché de l'emploi au Québec, voici, on va faire un maillage entre les employeurs et les immigrants. Et vous le savez à quel point il y a eu une absence de reconnaissance des diplômes, il y a eu une absence de reconnaissance des compétences, puis que le marché de l'emploi québécois répondait pas aux gens qu'on accueillait au Québec. Ça, là, je peux pas dire que c'est respectueux, puis vous conviendrez avec moi, là, qu'il y a une réelle problématique à ce niveau-là.
Mais vous réglez pas ça, vous continuez à permettre au Collège des médecins et à toutes sortes de corporations de faire du protectionnisme avancé.
Ben non, mais on travaille activement en collaboration. Et dans le projet de loi, là, Mme Segal, je mets une disposition pour que maintenant le ministère de l'Immigration soit le coordonnateur de l'action gouvernementale là-dessus. Auparavant, il y avait une collaboration entre les ministères, mais il y avait personne qui s'en occupait, puis c'était en silo. Désormais, le ministère de l'Immigration va jouer son rôle de leader pour s'assurer que le processus, lorsqu'on va à l'étranger faire du démarchage pour inviter les gens à venir au Québec, ben on ait un clé en main pour eux, puis qu'on reconnaisse leur diplôme dès l'origine, que leur dossier soit en état, et que leur arrivée au Québec puisse bien se faire, et qu'on se retrouve dans une situation où, lorsqu'ils vont mettre le pied au Québec, ben ils aient un accompagnement personnalisé. C'est ça le projet de loi 9, c'est ça que je fais.
Le président de l'Association des avocats d'immigration dit que vos programmes, le PEC puis l'ARIMA là, dont vous parlez, ils sont pas au point puis que vous serez pas capable de tenir vos paroles.
C'est pas opérationnel.
Oui, c'est opérationnel. Et le programme du programme d'expérience québécoise, il est fonctionnel depuis 2010. Et les gens qui parlent français, les gens qui sont en emploi 12 mois au cours des 24 derniers mois, se qualifient au PEC. Et le délai pour obtenir son CSQ, c'est 20 jours ouvrables. Ça, c'est le premier
élément.
Celui qui est en emploi depuis 11 mois, qu'est-ce qui lui arrive, lui?
La personne pourra appliquer. Présentement, elle est sur un certificat, sur un permis de travail fédéral, un permis temporaire. Donc, dans un mois, elle pourra appliquer et elle aura sa réponse beaucoup plus rapidement que si elle était restée avec l'ancien système qui était mis en place par le gouvernement libéral.
On sent que vous allez avoir une année bien chargée. Quand est-ce que vous allez nous arriver avec votre projet de loi sur l'identitaire, là?
Dans les prochaines semaines, M. Lavoie, dans les prochaines semaines, relativement aux signes religieux.
Une question à ce sujet-là.
Ce sont l'interdiction des signes religieux relativement aux personnes en situation d'autorité, ainsi que pour les enseignants. On a eu un mandat en campagne électorale d'interdire et d'inscrire dans nos lois la laïcité, et c'est ce qu'on va faire, parce que depuis 50 ans au Québec, on dit que l'État Québec est un État laïque, alors il faut l'inscrire dans nos lois.
Alors, parlant justement de cela, depuis que le gouvernement a été élu, on a appris que, d'abord, le crucifix à l'Assemblée nationale va rester là, c'est patrimonial. Les écoles décideront si elles veulent le garder. Il y en a dans les palais de justice, ça va rester là parce que c'est patrimonial. Ensuite, on a appris que ça s'appliquerait pas aux écoles privées. Vous avez la laïcité à géométrie variable un peu, hein?
Non, je pense, M. Lavoie, que ce qu'on va présenter comme projet de loi va refléter la volonté du consensus québécois. Ça fait 10 ans qu'il y a eu le rapport Bouchard-Taylor relativement à l'interdiction des signes religieux pour les personnes en situation d'autorité. Nous, on ajoute les enseignants. C'était notre engagement en campagne électorale. Le premier ministre m'a demandé de livrer cet engagement-là et j'ai bien l'intention de présenter un projet de loi à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines qui va répondre à cet engagement électoral-là, et surtout d'inscrire dans nos lois que l'État du Québec est un État qui est laïque.
Vous reviendrez vous chicaner avec nous autres, M. Jolin Barrette?
Ah, ben, je ne me chicane pas avec vous. C'est toujours un plaisir d'échanger et c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Je serai toujours disponible pour venir à votre micro.
Notez que sur l'autre sujet, probablement que vous allez juste vous chicaner avec Luc, pas avec moi. Mais on verra. Merci.
On verra en temps et lieu, comme on dit.
Au revoir.
Merci. Bonne journée à vous.
Simon Jolin Barrette, qui est en charge des dossiers d'immigration, notamment.
Quelle improvisation, quel n'importe quoi. Toute cette affaire de l'immigration, écoute, c'est très évident que quand ils ont présenté le projet de loi, ils n'étaient pas au courant de ce qu'il y avait derrière ça. Ils avaient une vision, là, sans aller dans les détails. Tu sais, laisse-moi pas, taponne-moi pas être les détails. Moi, je suis pas dans les détails. Mais le diable est dans les détails, hein, puis on est dedans, là. Puis il n'y a pas de réponse aux questions qu'on lui pose. Puis il y a toujours des espèces de réponses en berlificotées, puis c'est tout fait avec plein de respect. Ben j'ai bien de valeur, là. Moi, je pense que votre affaire sur l'immigration, c'est comme... C'est d'un amateurisme incroyable.
Moi, je ne peux pas comprendre, Luc. Et il n'est pas arrivé à me le faire comprendre, à moins que je sois bouché des deux bouts, là. Comment on peut payer 19 millions de dollars pour ne pas traiter des dossiers et considérer que remettre un inventaire à zéro... c'est améliorer la situation des immigrants. Je te le dis, là, moi, j'en ai rempli des documents, puis j'ai à peu près une fiche de 3 pouces d'épais pour chacun de mes 2 enfants qui ont immigré. Puis la majorité, c'est avec les gouvernements du Québec et du Canada qu'étaient les échanges épistolaires. Le temps, la patience, l'investissement d'espoir que tu as là-dedans, ça n'est pas remboursable. La personne que j'entendais ce matin qui voit se reculer de 6 mois l'échéance où elle pourra avoir un certificat de sélection si elle correspond au nouveau programme, c'est loin d'être remboursable pour elle, ça.
Puis une belle petite chicane de plus avec Ottawa, puis il y avait juste à pas mettre ce petit article-là qui aurait pas changé le fond de son affaire, puis ça, il y aurait pas eu de chicane. C'est vrai, qu'on pense, comme on en a discuté plus tôt, pourquoi ils ont mis ça là? Pour une chicane? Ils veulent une chicane. Puis c'est tout ça autour de quoi ils bâtissent la chicane? Nous, du Québec, on est une société distincte, on va décider ce qu'on fait avec nos immigrants, blablabla. Là, les gens se montent la tête. Oh non! C'est pas les Anglais qui vont nous dire comment gérer notre immigration. Tout ça, c'est du pipeau, c'est fabriqué.
Il a pas dit ça.
C'est navrant.
Il a dit qu'il veut un meilleur arrimage entre le monde du travail et l'immigration. Là-dessus, je le suis. Mais ça veut
c'est pas à ça que je fais référence, Myriam. Ce à quoi je fais référence, c'est quand il explique pourquoi il y a une chicane avec Ottawa. Il y a une chicane avec Ottawa parce qu'il l'a voulu. Son projet de loi aurait pu se tenir sans qu'il mette cet aspect-là de la résidence, de la permanentisation de la résidence. Puis t'as fait valoir un argument auquel j'ai même pas pensé, je sais pas si ça venait d'un auditeur ou de toi, qui est celui de dire, écoute, celui à qui on impose la permanence, là, il est dans la situation de se faire exploiter par à peu près par un employeur. Hein?
C'est un auditeur.
Je veux dire, il peut pas sortir de là.
C'est un immigrant. Alors, qui m'a écrit ça.
Tout ça, ça n'a pas de bon sens, tu comprends? Ça n'a pas de bon sens. Oui, il y avait... une longue liste d'attente, puis il fallait mettre les ressources pour la régler. Tu l'as bien dit, t'es prêt à donner 19 millions pour les effacer, alors mettons le 19 millions pour les régler, puis on verra avec l'avenir.
Il y a quelqu'un qui m'écrit, mettez ce gars-là dans les urgences, il va faire diminuer le temps d'attente, au bout de 6 heures, il va mettre tout le monde dehors.
Lui, ce gars-là, il va avoir une année tough, pas à peu près.
Mais il a l'air d'avoir les nerfs pour le faire. Il est 12:30.